bonjour à tous, bienvenue dans Vive le cinéma Perspective. Une fois par mois sur Aligre FM, nous accueillons un historien, un chercheur en cinéma pour faire le point sur l'actualité de la recherche en histoire de film. Et aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'une histoire d'amour, une histoire qui dure le long des sombres années 40, un cinéaste phare du cinéma français, Henri-Georges Clouzot, et une grande actrice, la star de L'Assassin habite au 21 de Clouzot, justement, décédée il y a peu, en 2020, à l'âge canonique de 102 ans, Suzy Delair. Avec nous, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain, cinéaste et critique de cinéma, mais surtout historien, Noël Herpe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez consacré chez Marest Éditeur un ouvrage qui regroupe lettres, photographies, cartes postales et documents qui racontent cette relation parfois houleuse. Ça s'appelle Delair-Clouzot. Alors on va commencer par les repères chronologiques. Ils se rencontrent comment? Ça commence quand, cette histoire?
Ils se rencontrent parce que Clouzot était un peu petite main pour un réalisateur qui s'appelait Léon Matteau, pour un film qui s'appelait Le Révolté, dont il a également écrit le scénario. Il était un peu homme à tout faire du cinéma français. Tous ces cinéastes qui ont débuté pendant l'occupation faisaient un peu tous les petits boulots, hein. Ça a été le cas de pas mal de gens de sa génération. Donc Clouzot, à ce moment-là, voilà, il est à la fois assistant, scénariste, il fait le découpage, et on lui demande de chercher ce qu'on appelait à l'époque une oseille, c'est-à-dire une petite chanteuse de revue à la voix un peu perchée. Et il va donc aller, lui qui connaissait très bien le milieu du musical, puisqu'il avait écrit des revues, des opérettes, il avait été gagman, donc c'était un milieu qu'il connaissait par cœur, et il va écumer un peu les salles de spectacle. Il va se retrouver donc un soir à l'ABC, en première partie je crois d'un concert de Marie Dubas, ou de Miss Tinguette, je sais plus, et c'est donc là qui va voir cette jeune femme. C'était pas tout à fait une oseille d'ailleurs, mais elle avait un côté voilà marrant, elle avait des rondeurs, elle lui a tout de suite tapé dans l'œil. Elle n'a pas été engagée pour le film, mais elle est devenue tout de suite sa maîtresse. Enfin tout de suite, peut-être pas exactement tout de suite, mais assez vite, car Clouzot était quand même quelqu'un qui aimait les femmes et qui leur faisait savoir.
Et donc c'est lui qui va un peu la révéler aussi en tant qu'actrice.
Alors ça va mettre un petit moment, ça va mettre un bon moment, parce qu'en fait, Clouzot, lui, il continue à bouffer de la vache enragée, à faire des petits boulots, il ronge son frein, et c'est vraiment, ça fait partie, comme je le disais à l'instant, de ces gens qui vont former une espèce de micro-nouvelle vague du cinéma à la faveur des conditions très spéciales de l'occupation. Donc Clouzot se retrouve bombardé, si j'ose dire, en 1940-41 à peu près, enfin fin 40, début 41, chef du département des scénarios de la Continentale, qui était une société implantée à Paris, qui avait été voulue par Goebbels, et qui va être animée par une sorte de nazi un peu éclairé qui s'appelait Alfred Greven, et au sein de laquelle l'étoile de Clouzot ne va cesser de monter, parce que c'est un homme extrêmement talentueux et qu'il a saisi sa chance. Hein. Il n'est pas très regardant sur les conditions ni sur les circonstances, donc il va d'abord superviser la réalisation de films dont il est le scénariste, et c'est dans ce cadre qu'il fait engager Suzy, qui désespérait d'avoir un rôle au cinéma. Elle avait fait des pannes dans des films des années 30, elle menait aussi, on en reparlera peut-être en parallèle, une carrière de chanteuse, mais enfin qui battait de l'aile, et c'est vraiment Clouzot qui l'a fait engager pour donc Le Dernier des Six, qui était un film de Georges Lacombe, où elle a déjà un rôle très important. C'était pas évident, hein. Elle avait 25 ans, et il lui fait jouer le leading character en face de Pierre Fresnay, qui était alors une immense vedette. Donc elle est d'ailleurs pas toujours très à l'aise dans ce film, mais enfin elle tire quand même son épingle du jeu, elle est appréciée par la presse de l'époque, et c'est un peu grâce au succès du Dernier des Six que Clouzot va avoir les bras libres pour faire son premier long métrage en tant que réalisateur, un an plus tard, avec cette fois Suzy vraiment dans le rôle principal, à partie égale sur l'affiche, sur le générique et dans la fiction du film avec Pierre Fresnay. Ça sera donc L'Assassin habite au 21.
Donc cette relation professionnelle, elle est liée très fortement à la relation sentimentale qu'ils entretiennent tous les deux?
Oui, alors oui, elle est très clairement liée. Elle est liée dans un sens que j'ai essayé de montrer un peu dans ce livre, et qui est que contrairement à ce qu'on pourrait, on n'a pas attendu la nouvelle vague pour raconter ces histoires d'amour. Et si vous regardez les films des cinéastes de cette génération, et notamment ceux de Clouzot, il y a plein d'allusions autobiographiques voilées. Il y a plein, par exemple, ce qui est très frappant quand on lit les lettres que je publie là, c'est de découvrir le mon biquet, mon minet, un certain nombre d'expressions qui sont des expressions du personnage de Suzy Delair dans Le Dernier des Six et dans L'Assassin habite au 21, puisqu'elle joue ce personnage un peu volcanique de Mila Malou, la compagne un peu ingérable, contrôlable du commissaire Vince, Alors, elle va d'ailleurs être un peu son associée et elle va finalement ne pas si mal se débrouiller. Mais ce qui est très frappant, c'est de voir en effet à quel point dans ces deux films, et surtout dans L'Assassin Beethoven 21, Clouseau transpose des éléments de leur intimité, le caractère à la fois très fantaisiste, très marrant, et en même temps, il faut le dire, souvent très chiant de Suzy, qui n'était pas quelqu'un de facile. Hein, tous les gens qui ont connu Suzy Dolaire, et je pense qu'elle-même aurait reconnu qu'elle n'était pas facile.
Mais ce qui est amusant dans cette relation épistolaire, enfin comme on la découvre dans ce livre, c'est qu'elle est un peu dans un sens. Enfin, c'est surtout des lettres d'Henri Georges et on n'a pas les réponses de Suzy. Comment est-ce que ça s'explique ?
Moi, je les ai pas trouvées. Je les ai pas vraiment cherchées d'ailleurs, parce que Jacqueline Villemetz, qui a eu la gentillesse à Pierre-Julien Marest, l'éditeur, et à moi d'apporter ces lettres, nous a dit non, bah il n'existe pas parce que là il se trouve que Jacqueline Villemetz, qui était une amie de Suzy Dolaire, a récupéré et a collecté, a classé les lettres qui étaient chez elle après sa mort, et je pense déjà peut-être un peu avant sa mort. Elle a par ailleurs publié chez l'Harmattan un livre qui est un recueil de souvenirs basé sur les entretiens qu'elle avait eus avec Suzy. Mais il faudrait, pour qu'on retrouve les lettres de Suzy, il faudrait aller voir à la Cinémathèque française, ce que j'ai fait d'ailleurs en son temps, lorsque j'ai préparé l'exposition Clouseau en 2017, et il n'y avait pas de lettre de Suzy Dolaire. Je pense qu'il a dû, lors de déménagements successifs, notamment lorsqu'il s'est un peu replié à la Colombe d'Or dans le Midi, il a dû se débarrasser de ses lettres de jeunesse, peut-être aussi à la demande de certaines femmes jalouses qu'il a eues par la suite et qui n'ont pas forcément envie de rappeler les souvenirs de sa jeunesse, puisque Suzy, en fait, a été son premier grand amour. Ça a été une flambée extraordinaire d'amour, de souffrance, de jalousie, d'engueulade, de réconciliation, de jérémiade, et finalement d'une rupture qui... bizarrement, n'a pas laissé des traces traumatisantes, c'est-à-dire que 10 ou 15 ans après, il peut revoir Suzy avec sérénité, alors que la fin de leur liaison, on en parlera sans doute, a été quand même assez, assez douloureuse.
Mais parlons-en justement, comment est-ce qu'elle s'arrête ?
Elle s'arrête beaucoup plus tard, 10 ans plus tard. Entre-temps, il y a eu un troisième film en commun, qui est Des Orfèvres, et il y a un quatrième film. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Suzy s'énerve. Ça, ce serait à vérifier. Plus exactement, elle prétendra par la suite qu'on lui avait destiné le rôle de Manon dans le film, donc dans le quatrième long-métrage, ou cinquième, je sais plus, long-métrage de Clouseau en 1949. Ça paraît un peu douteux, parce que le rôle est quand même prévu pour une très jeune femme. En tout cas, c'est un moment difficile, comme il y en a toujours eu dans leur relation. À part peut-être les deux, trois premières années encore, leur relation n'a été faite que de, comme je le disais à l'instant, que d'engueulades et que de tempêtes. Mais là, il y a un élément qui est peut-être la lassitude, et surtout la lassitude des adultères respectifs de l'un et de l'autre, puisqu'ils se trompaient mutuellement. Suzy, parce qu'elle avait du mal à résister à des hommes qui l'a courtisé ou qui lui proposaient des rôles, parce qu'elle restait quand même quelqu'un de très ambitieux. Henri Georges, parce que, comme je l'ai dit, il aimait les femmes, et que au moment de Quai des Orfèvres, il rencontre quelqu'un qui arrive sur le plateau, qui était quelqu'un de la troupe de Louis Jouvet. Vera Lapara, qui avait été l'épouse de Léo Lapara, un acteur de Louis Jouvet, et qui est une brésilienne, et là il a le coup de foudre, Suzy en souffre, de même que lui souffre de l'avoir flirté avec un journaliste qui s'appelait Georges Craven. Voilà, tout ça c'est des éléments que je me tends pas trop là-dessus, parce que c'est pas l'aspect le plus important, mais enfin ça explique pourquoi ils se sont quittés. Ce qui est intéressant, là encore, c'est moins la chose en elle-même, si j'ose dire, en reprenant les termes de la célèbre chanson avec son tralala. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est peut-être moins la chose en elle-même, c'est-à-dire les petites histoires de coucherie que tout le monde a, que la manière dont Clouseau a utilisé ça dans son cinéma. Déjà, c'est très intéressant dans les films de l'occupation, parce qu'il y a une manière, comme je le disais, de mettre en scène son intimité, mais avec une franchise sexuelle quand même très rare à l'époque, hein. Quand Suzy balance ça doit être une jolie cochonne, ta maîtresse, ou je ne couche pas avec le pape, c'est vraiment des répliques qu'on n'entendait pas dans le cinéma français des années 30, qui était quand même très aseptisé, on parlait jamais de sexe, hein. Et c'est ça qu'apporte Suzy Dolaire, à mon avis, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant. C'est en ça que je parle quand même un peu d'une nouvelle vague avant la lettre. Alors on pourrait l'inscrire dans la continuité d'Arletty, qui avait déjà ce côté-là, mais là vraiment ça explose, hein. Et je crois que si c'est ce qui a plu dans ce moment qui était très corseté, qui était celui de l'occupation, ou, voilà, avec le moralisme de Vichy, etc. Mm-hmm. Et avoir une actrice comme ça, un peu à l'américaine en même temps, avec un côté pétulant, rapide, rythmé, mais aussi avec une verdeur de langage que Clouseau lui a mis dans la bouche, mais qu'elle avait aussi dans la vie. Donc il y a cet aspect-là, et puis dans Quai des Orfèvres, alors il y a un deuxième aspect autobiographique qui est celui dont je parlais, c'est celui de la jalousie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en lisant ces lettres que le personnage de Maurice Martineau, alias Bernard Blier, dans Quai des Orfèvres, qui couvre sa femme d'une jalousie obsessionnelle et qui va même croire devenir assassin par amour pour sa femme, bah c'est Clouseau. Mmh. Ce regard à la fois dévorant, inquisiteur, cette volonté de contrôler les moindres faits et gestes de la femme aimée, c'est Clouseau et c'est Suzy.
Oui, on a des lettres assez amusantes, parfois aussi assez laconiques. Parfois, c'est des lettres qui sont très courtes, où on entend Henri-Georges Clouseau un peu se lamenter que Suzy Delair ne répond pas au téléphone. C'est une relation assez amusante et qui est presque un peu moderne aussi par moment. Enfin, c'est assez drôle.
Bah, c'est moderne dans un sens, je dirais déjà, parce que Clouseau est un homme qui a un rapport très fort à la littérature. Il a passé plusieurs années en sanatorium dans les années 30, donc il connaît ses classiques et plutôt ses modernes. Il a aimé Pirandello en fait partie, mais surtout Proust, hein, donc c'est un lecteur de Proust, et je pense, et on a presque l'impression que la jalousie proustienne est un thème qui infuse dans la vie de Clouseau et qui revit un peu les affres du narrateur proustien à travers sa vie et à travers son cinéma. Alors bon, ça annonce notre époque d'une certaine manière, oui, ça l'annonce dans la mesure où Clouseau apparaît quand même comme un personnage assez paternaliste, extrêmement possessif, qui veut absolument, comme je l'ai dit, contrôler la vie de Suzy, mais aussi sa carrière, qui lui dit dans les premières lettres, vous allez vous soumettre à l'autorité d'un homme qui fera de vous quelqu'un, voilà, qui va vous aider à vous construire. Aujourd'hui, bon, je pense que des propos comme ça feraient sourire, ou pourraient même choquer. Mais en même temps, ce qui me paraît très touchant chez Clouseau, c'est que justement, il est attiré par Suzy, il a envie de la cadrer, il a envie de la diriger, dans tous les sens du terme, mais en même temps, il est fasciné en elle par ce qui le déborde, par ce qui lui résiste, par une sorte de limite qui est apportée à sa toute-puissance. Et c'est ça qui est très beau, c'est à la fois son côté masochiste, qui va se décliner beaucoup plus tard dans son film sur la jalousie, L'Enfer, qui ne va pas vraiment mener à terme, mais enfin dont on connaît, grâce à Serge Bombert, de splendide vestige, de splendide rush, L'Enfer d'Henri-Georges Clouseau, ben L'Enfer de la jalousie, justement. Donc il y a cette dimension de jalousie masochiste qui l'amène à tester les limites de sa toute-puissance, et en même temps, il y a un goût de se heurter à l'autre, qui me paraît quand même apporter peut-être à Clouseau le secret de son art. Clouseau est un obsessionnel, c'est quelqu'un qui déborde de volonté de dominer la matière à travers le regard, à travers le découpage, à travers le storyboard, à travers une direction d'acteur complètement sourcilleuse et méticuleuse. Et Suzy, elle lui apporte l'autre. Vous savez, c'est ce mot de Baudrillard que j'aime beaucoup qui dit « l'autre, c'est ce qui me permet de ne pas me répéter à l'infini ». Et je trouve que Suzy, ça a été cet autre qui lui a permis d'ouvrir les fenêtres, de respirer et de faire respirer son cinéma.
Et vous dites aussi que ça devient sa némésis. C'est un terme assez amusant. Je ne sais pas pourquoi vous allez jusque-là.
Dans la mesure où, finalement, les femmes dans le monde de Clouseau sont des femmes assez phalliques, hein, et assez cruelles, sinon castratrices. Déjà au personnage de Michel Alpha dans Le Dernier des Six, qui est une co-girl qui tire à la carabine. On aura le personnage de Simone Renan, une lesbienne qui couvre un peu les personnages autour d'elle d'une affection un peu dévorante, une sorte de mante religieuse dans Quai des Orfèvres. Il y a ce goût, et Suzy même, il y a un côté Vénus à la fourrure, hein, au sens propre et figuré dans Quai des Orfèvres. Il y a un côté à la fois putain et mère fouettarde qui le ravissait et qui correspondait sans doute à son idéal érotique. Je suis pas persuadé que Clouseau était l'idéal érotique de Suzy. Mmh. Et c'est peut-être aussi une des raisons de leur rupture. Mais en tout cas, oui, il y a ce goût. Je crois pas que c'était quelqu'un qui était... J'irais pas jusqu'à dire que c'était un cinéaste féministe. Mais il aimait les femmes qui, au moins dans le cadre de la fiction, prenaient le pouvoir. Mmh. Et Dieu sait qu'il a donné le pouvoir à ses héroïnes. Le personnage magnifique aussi de Ginette Leclerc dans Le Corbeau, qui tient tête à Pierre Fresnay et qui finit par l'amener à une autre vision de la vie. Ou même le personnage de magnifique de Manon, d'une certaine manière, qui est un personnage libre, très, très près Nouvelle Vague, le personnage de Cécile Aubry dans Manon, qui veut coucher avec les mecs qui lui plaisent. Alors évidemment, ça suscite la jalousie masculine, obsessionnelle du personnage principal, mais c'est aussi une critique de la masculinité et une sorte de fascination pour la liberté du corps féminin. Mmh. plus tard la vérité, Brigitte Bardot, hein, qui va être jugée par des vieux schnocks dans un tribunal poussiéreux, alors qu'elle éclate de beauté et de liberté sexuelle. Donc c'est un thème qui revient souvent chez lui, et il me semble qu'il est, de ce point de vue-là, il est beaucoup moins macho, qu'on a bien voulu le dire, et peut-être même pas du tout macho.
Mais comme vous le dites, ces personnages féminins sont influencés par ces relations, ils sont écrits un peu d'après ces relations, dans celle avec Suzy Delair. Mais est-ce que, par exemple, Suzy Delair, quand elle tourne avec lui, est-ce qu'elle apporte aussi elle-même un peu de sa manière de parler au-delà du scénario? Est-ce qu'elle participe un peu à l'écriture du film en train de se faire? Ou au contraire, ça, c'est plus dans la relation et dans la création d'un personnage qui correspond à
l'actrice? Je crois pas. Parce que Clouseau était en même temps quelqu'un qui épinglait un peu ses amis comme des papillons. Donc ils se servent, et surtout sa maîtresse, il le fera en partie plus tard avec Vera Clouseau dans une moindre mesure. Enfin, il va quand même utiliser la maladie cardiaque de Vera Clouseau pour construire la diabolique, c'est pas rien non plus. Hein. Non, je suis pas sûr de ça, parce que je pense qu'il faisait un peu ça dans son dos. Elle devait pas en être très contente, peut-être un peu au début, mais sûr qu'elle les enfants, elle était pas contente du tout, parce qu'elle voulait avoir un grand rôle dramatique. Elle voulait accéder vraiment à un emploi supérieur, elle qui avait toujours des rôles fantaisistes. Et donc là, elle se retrouve avec un rôle de chanteuse de beuglant un peu minable, qui veut arriver à tout prix, qui est prête à coucher avec un producteur pour avoir un rôle, une sorte de Harvey Weinstein de l'époque, joué par Charles Dullin, qui est en même temps un peu une réminiscence d'Alfred Greven. Bon, voilà, donc je suis pas sûr que Suzy était si contente que ça de jouer son propre rôle, en fait. Hein. Et son propre rôle, pas épargné, parce qu'on en voit à la fois tout le charme, toute la fantaisie, mais aussi toute la noirceur.
Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte de découvrir ces textes aujourd'hui, qui ont maintenant 70 ans après ?
Je crois que ça nous apporte de rappeler peut-être qu'un cinéaste fait des films avec sa propre chair. Alors évidemment, oui, bon, ça, il y a des effets collatéraux, c'est-à-dire qu'il met en scène les autres de manière parfois un peu cynique, mais je trouve que ça donne... Comment dire, ça donne au cinéma de Clouseau, qu'on dit souvent cruel et trop pessimiste, une dimension d'humanité qu'on ne voit peut-être pas toujours, et une dimension de réflexion sur la psyché, qui est quand même très, très présente, et qui, à mon avis, s'épanouit pleinement dans Quai des Orfèvres, qui est de ce point de vue-là son film le plus réussi. Peut-être parce que justement, il s'est inspiré de cette espèce de modèle vivant qui était Suzy, et qui lui a apporté une richesse humaine, et aussi une dimension importante dont me parlait son frère, qui est mort à l'âge de 100 ans, qui s'appelait Marcel, et qui me disait, quand je déjeunais chez Henri-Georges et Suzy, ils habitaient rue Lagrange, à côté de la place Maubert, en fait, ils tournaient constamment autour de la table en s'échangeant des noms d'oiseaux, et je déjeunais seul parce qu'ils étaient tout le temps en train de s'engueuler. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle lui apportait finalement, Suzy Delair, qu'est-ce qu'elle lui apportait ? Mais il a eu ce mot, l'imprévu. Et je trouve ça très beau, parce que il avait besoin, effectivement, de quelqu'un qui bousculait le cadre et qui le dérangeait, qui le sortait de ses certitudes, de sa zone de confort, et qui le mettait en danger, finalement, qui le mettait dans une position d'instabilité. Et ça, je trouve ça très important de rappeler qu'un créateur, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être dans l'instabilité. Ensuite, et Suzy lui a apporté ça. À mon avis, elle n'est pas la seule. Hein. C'est aussi le contexte de l'époque. C'est aussi son angoisse par rapport son angoisse par rapport à la mort, parce que c'est quelqu'un qui avait été quand même très marqué par le fait d'avoir été tuberculeux et qui toute sa vie va être angoissé par la proximité de la mort. Il y a plein d'éléments. Mais bon, voilà, c'est une conjonction qui donne quand même ces films extraordinairement à la fois maîtrisés et ténébreux et fragiles que sont Le Corbeau, Quai des Orfèvres, qui sont des films quand même sur la corde raide. Ensuite, je dis pas que Clouseau a maîtrisé ses démons, loin de là, au contraire, mais après Suzy, avec Vera ou avec Inès, les films seront plus posés, il me semble qu'ils seront peut-être un peu plus séparés de la vie privée. Il va viser la classe internationale, il va être un cinéaste de festival, connu et admiré dans le monde entier. Il me semble que ces films vont peut-être moins se nourrir de sa chair et de son sang d'une ambition narrative très puissante, mais peut-être moins personnelle.
Oui, c'est aussi une question d'âge. Il n'a plus le même âge qu'au moment où il vit cette relation, qui est aussi pas une relation de jeune homme, mais quand même, on est une période un peu au début de la première partie de sa vie, disons.
Il va quand même revenir à une veine personnelle avec l'enfer.
Oui.
Et d'ailleurs, dans tous les sens du terme, puisque pendant le tournage de l'enfer, on le sait maintenant, il était quand même fou amoureux de Romy Schneider. Et donc, mais le carburant ne fonctionne plus de la même manière. Il me semble que là, il y a eu vraiment... On pourrait presque, si j'étais un peu le goût du paradoxe que j'ai, on pourrait presque comparer le rapport de Clouzot à Suzy à celui de Godard avec Anna Karina. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'aime pas le mot de muse, bon, parce que c'est très réducteur, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une sorte d'interaction qui fait qu'un cinéaste a envie de filmer une femme et qu'à la fois elle l'inspire, elle le détruit, comme je le disais, elle le déstabilise. Ensuite, il est peut-être un peu plus seul.
Oui, il y a des choses assez amusantes. On le voit parfois signé Henri Georges, entre parenthèses, surtout Georges.
Oui.
Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement.
Oui, c'était peut-être le nom qu'elle lui donnait dans l'intimité. Alors, il y a beaucoup de détails il y a quelques détails qui peuvent paraître un tout petit peu coquins, voilà. Il est certain, il y a eu un article que j'ai découvert il y a pas longtemps dans la revue 1895 sur ce point. Il est certain que nous n'avons pas des éléments extrêmement détaillés sur le travail. Hein. On parle peu dans ces lettres du travail. Il y a simplement quand même une sorte de compte à rebours du tournage du Corbeau. On comprend que ça n'a pas été simple pour lui parce qu'il y a peu de temps de tournage. On a aussi tout ce qui concerne la présentation et la réception de Quai des Orfèvres avec ce télégramme assez amusant où il dit la presse enthousiaste sauf ces grincheux de français quelque chose comme ça. C'est pas une correspondance professionnelle parce que justement ils ont un rapport trop intime pour parler de travail, ils sont dans quelque chose qui excède complètement ce cadre. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses sur l'époque, c'est assez frappant, hein. C'est-à-dire que
oui, c'est ça.
On a l'impression
qu'on est pendant l'occupation, ouais. Donc oui.
On a l'impression qu'ils vivent... Clouzot, il se plaint simplement que son directeur de production est chiant, que ça n'avance pas assez vite, mais il y a quasiment... Et puis, évidemment, il est un peu emmerdé au moment de l'épuration, parce que, comme vous le savez, et comme chacun sait, il a eu des petits problèmes à ce moment-là à cause du Corbeau et à cause du fait, justement, d'avoir travaillé pour la Continentale. Mais il n'y a jamais de discours politique ou d'observation. C'est vraiment... C'est à la fois des lettres... À ce moment-là, c'est plutôt des lettres de survie, et c'est des lettres de vie, quoi, de vie commune, et toujours, tu me manques, quand reviens-tu y a aussi tout ce truc assez marrant, c'est la relation avec la grand-mère, parce que Suzy était restée très liée à sa grand-mère, alors il se sert un peu de la grand-mère comme petit télégraphiste. Ensuite, une fois que Suzy est en train de le quitter, il se sert de la mort de sa grand-mère pour essayer de se rapprocher d'elle. Enfin, bon, y a comme ça plein de petites stratégies que connaissent tous les gens qui ont été en couple. Et puis, il y a ce moment vraiment très émouvant de la fin où il est au Maroc, où il fait les repérages pour Manon et il lui écrit une ou deux très très belles lettres. C'est là que, alors là, on n'est plus tellement dans Godard, on est un peu dans Piala, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire cette espèce de mort du lien, ce que je trouve très très beau, cette idée qu'on retrouvera dans le cinéma de Piala, mais qui est très forte aussi chez Clouzot, que le lien qui meurt est d'autant plus sensible qu'il est en train de mourir, quoi. C'est vraiment à ce moment-là, dans ces lettres de la fin, qu'on ressent vraiment toute la plénitude de son amour pour elle.
C'est l'intégralité des lettres que vous avez trouvées ou c'est
alors il en manque une. Il en manque une que nous avions montrée à la Cinémathèque française dans le cadre de l'exposition de 2017, qui est une lettre assez marrante où il lui disait je vais prendre l'avion, j'ai très peur de mourir. Car voilà, c'est permanent chez lui quand même, hein, cette angoisse. Et je crois même qu'il lui parlait de son testament. Alors ça renvoie d'ailleurs à une réplique de Suzy Dolaire à Pierre Freinet dans L'Assassin Bito 21, où à un moment il s'en va pour mener son enquête et juste avant de le quitter, elle lui dit « T'as pensé à ton testament ?» Donc ça, bon, voilà, il y a un moment où on ne sait plus qui a inspiré l'autre, c'est un jeu de ping-pong, c'est ça qui est aussi très, très fascinant. Cette lettre qui nous avait été prêtée par François Belair, le fils de Marie Dubas, il n'a pas pu la retrouver. Alors, il l'a récupérée, hein, mais il n'a pas pu la retrouver, peut-être parce que voilà, il l'a mise dans un tiroir et elle va ressurgir un jour, je l'espère.
C'est aussi la vie des lettres sentimentales, certaines se perdent, ça fait partie de l'histoire. Mais vous avez une relation qui est un peu personnelle avec ce cinéma-là, qui remonte aussi un peu à l'enfance, comme vous l'écrivez dans la préface. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser, parmi nombreux cinéastes auxquels vous vous êtes intéressé, à Henri-Georges Clouzot ?
Déjà, c'est le souvenir de sa mort. Je me souviens très bien de sa mort, parce qu'à l'époque, la mort d'un cinéaste comme Clouzot, c'était un événement. On déprogrammait, c'était l'URTF, donc on déprogrammait, on allait montrer Le Corbeau en hommage à ce cinéaste qui venait de mourir. D'ailleurs, je note en passant qu'on a parlé beaucoup ce jour-là de la mort de Clouzot et très peu de celle d'Henri Langlois, qui était intervenu le même jour. Ensuite, je dirais que oui, c'est une découverte, c'est la télévision, c'était cette émission merveilleuse de Panigel au cinéma ce soir, qui a réuni des témoignages magnifiques, notamment sur le tournage de Quai des Orfèvres. Mais c'est d'abord pour moi, enfin c'est d'abord ou ensuite, le Champeau, un cinéma du 5e arrondissement où ma mère m'a emmené voir des classiques du cinéma français et où j'ai vu pour la première fois Quai des Orfèvres. Alors, je ne comprenais rien à toutes ces allusions sexuelles, toutes ces histoires. Si vous voyez mes cuissards, ils sont trempés. Mon père qui a mis 6 ans à claquer dans le KGB du fond. Tous ces trucs un peu crapoteux. Ce côté sale, ce côté sordide me passait un peu au-dessus de la tête, et ce que je voyais, c'était une sorte de monde à la fois maudit et magique et mythique. Parce que en 1977, 76, peut-être même 75, un film comme celui-là paraissait beaucoup plus ancien que ne paraîtrait aujourd'hui un film des années 80. Ça paraissait complètement préhistorique. Et je me suis mis à chanter cette chanson du film avec son tralala, et j'avais 10 ans et je me revois sur la terrasse de la maison de Cancale avec ma grand-mère qui était très bigote, et j'entonnais avec son tralala, son etc. Et je me disais, mais enfin tais-toi Noël, enfin t'as pas compris ce que c'était le tralala, et... mais à vrai dire j'ai toujours pas vraiment compris, hein, vous allez peut-être m'expliquer.
C'est un mystère.
C'est un mystère que nous n'éluciderons pas, pour ne pas froisser les chastes oreilles.
Mais ce qui est assez amusant, c'est que Henri-Georges Clouzot, c'est un cinéaste qui, aujourd'hui, est encore très présent, j'ai l'impression, dans nos mémoires. C'est un cinéaste dont on parle encore beaucoup, dont beaucoup de réalisateurs, en France, mais aussi à l'étranger, le citent comme référence, comme un réalisateur important. Suzy Delair, on l'avait presque oublié. Elle est décédée il y a 2 ans, en 2020. Moi, je l'ai un peu redécouverte, enfin, en lisant ce recueil.
Clouzot, c'est vrai que moi en tout cas j'ai assisté à un retour de flamme pour Clouzot, qui est dû à mon avis en grande partie à Serge Bomberg, hein, parce que c'est vrai qu'on le voyait un peu comme un cinéaste de l'ancienne génération. Bon, Truffaut l'avait pas ménagé, et là le fait de voir à quel point son expérimentation formelle a été forte a donné envie de revoir ses films d'avant et de les revoir peut-être de manière un peu plus précise. Et c'était un peu d'ailleurs sous cet angle que j'ai fait l'exposition de la Cinémathèque, où j'essayais de montrer que l'expérimentation formelle, elle était déjà présente dans des films comme Quai des Orfèvres, et qu'il y avait déjà une picturalité, une réflexion sur la lumière, sur le cadre, très poussée, et une volonté de maîtriser l'expression plastique du cinéma dans toutes ces dimensions. Suzy Delair, évidemment, le problème, c'est que, oui, elle est... J'ai envie de dire, c'est le sort peut-être des actrices qui ont été trop intimement confondues avec un réalisateur. C'est souvent le cas, en tout cas. Elle a été tellement associée à Clouzot, et que ensuite ça a été très difficile pour elle. Bon, c'est sans doute lié en partie à son mauvais caractère. Elle a eu quelques rôles quand même importants, mais avec Grémillon notamment, avec qui elle s'est pas du tout entendue d'ailleurs, hein, sur Patte Blanche. Elle a tourné avec Clément, avec Visconti, puis pas mal de rôles comiques, notamment avec Noël, Le fil à la patte, ou avec Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Mais c'est vrai que, oui, il y a quelque chose, c'est comme si Clouzot l'avait mangé, hein, c'est comme si Clouzot l'avait fixé, je parlais du côté papillon, il l'a quand même un peu vampirisé, et c'est le propre des grands cinéastes, hein, on ne s'en approche qu'à ses dépens, hein, il a fixé une image d'elle, c'est plus qu'une image d'elle, il a fixé à la fois son corps, sa vitalité, sa frénésie, sa fantaisie, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'âme, à mon avis, il voulait voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et là, elle l'a craché, ce qu'elle avait dans le ventre. Il y a vraiment des scènes de Quai des Orfèvres où elle est au-delà d'elle-même, je dirais. Et où elle déborde des limites de l'emploi conventionnel qu'elle avait par ailleurs.
Et quel regard elle portait sur cette période de sa vie, sur cette relation?
Alors, elle a eu l'occasion d'en parler, pas qu'à moi, mais enfin, j'ai eu cette rencontre avec elle très peu de temps avant sa mort, rue de Varennes, où elle habitait, où elle avait déménagé après sa rupture avec Henri Georges. Et j'ai débarqué avec 2 jeunes amis, dont l'un qui voulait faire son portrait. Elle lui a dit, écoutez, il faut quand même que j'aille chez le coiffeur. Et voilà, elle est restée dans la cuisine, elle avait 100 ans quand même, elle est restée dans la cuisine pendant 1 heure, elle nous a chanté la chanson qu'elle chantait en 38 quand Clouzot l'a vue pour la première fois à l'ABC, Valencia, et puis la chanson qui en a été le remake en fait, parce que Quai des Orfèvres, elle est un film qui est fait de citations de la jeunesse de Suzy et de la jeunesse d'Henri Georges, hein. Donc Quai des Orfèvres, il a repris tous ses souvenirs du musical d'avant-guerre 10 ans après, et il a mis en scène la Suzy qu'il avait connue. Elle nous a chanté le tralala, et tout en restant debout pendant une heure à nous raconter des anecdotes, et à la fin nous a quitté sur ce mot mémorable: ah Henri Georges, quelle connerie j'ai faite de le quitter, il n'y a pas un seul jour sans que je pense à lui. Ce qui était à la fois une manière de dire l'amour qu'elle avait eu pour lui, mais aussi l'admiration et le sentiment qu'ils avaient fait ensemble, cinématographiquement, quelque chose de grand.
Et si on veut commencer, si on n'a pas vu des films de cette histoire, vous parlez beaucoup de Quai des Orfèvres, est-ce que c'est celui-ci par lequel il faut commencer,
oui,
L'assassin habite au 21 ?
Oh oui, Quai des Orfèvres, parce que c'est un film d'une merveilleuse humanité, un film à la fois très sombre et très touchant. Un jour, pendant le tournage, Jouvet s'est penché sur Jouvet, qui était donc l'acteur principal du film, qui a été lui aussi, d'ailleurs, parce que tout le monde était un peu malmené hein, sur le tournage de Clouseau, on le sait, mais même Jouvet a été malmené. Et Jouvet se penche vers Bernard Blier, qui s'était pris une baffe pendant le tournage, et il lui dit: écoute, ce type-là, on peut quand même tout lui pardonner, parce qu'il c'est quelqu'un dans le genre de Dickens. Et je trouve que ça définit très bien le foisonnement de personnages de Quai des Orfèvres, cette vision sociale et en même temps très humaine qui traverse le temps. Un film d'une efficacité extraordinaire et en même temps qui nous parle encore de nous. Enfin, je suis très frappé. C'est un film que je montre souvent, que j'ai montré pour une formation récemment à Nantes pour des professeurs, parce que le film était au programme du bac cinéma. Et j'étais très frappé de voir à quel point le film à chaque fois porte parce que les personnages sont vivants, justement. Mmh. Dans Le Corbeau, c'est peut-être un tout petit peu plus des créatures de fiction.
Oui. Mmh.
Dans Les Diaboliques, n'en parlons pas. Mais dans Quai des Orfèvres, ils vivent encore, ils palpitent encore, ces personnages.
On vous invite, du coup, que vous soyez lycéen ou non, à découvrir ces films, et notamment Quai des Orfèvres, mais surtout à lire cette histoire d'amour à travers ces lettres, ces télégrammes, ces cartes postales dans Delair Clouseau, aux éditions Marest Éditeur. Merci beaucoup, Noël Herp. Donc, le livre est disponible dès maintenant. Il est sorti en avril dernier,
avril,
je crois.
Oui, tout à fait.
Chose comme ça. Donc, il est toujours disponible. On vous encourage à vous le procurer. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Alors, on aurait pu partir sur une chanson de Suzy Delair, mais non, on a choisi autre chose. En tout cas, on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres perspectives dans Vive le cinéma sur Ligre FM. Et donc, on se quitte avec quand même une musique de circonstance. Tu m'oublieras, Régine, 1980.
Tu vas partir après tout cet amour, sans le plus petit regret. Avant longtemps, je le sais, tu m'oublieras. Dis rien, va-t'en, ne perds plus de temps. À côté de mon chagrin, tu oublieras. Demain, tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. Ces réveils au matin, les bras autour de mon cou, et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité, tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Tu oublieras, tu m'oublieras, tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir, ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement passer la porte et partir. Tu m'oublieras malgré toi tout à l'heure, en la serrant sur ton cœur, fou de rêve et d'amour. Tu oublieras que j'en meurs. Tu oublieras, tu m'oublieras. Accroché au téléphone, le premier rendez-vous qu'un soir enfin je te donne, et cette nuit qui a changé toute ma vie. Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet, s'il faisait du soleil ou bien si la pluie tombait. Tu oublieras, tu oublieras, tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes, le bonheur délirant qui faisait brûler tes veines et ses cris vers le ciel, finissant dans un je t'aime. Tu oublieras tout de moi, tout de nous, quand ton souffle sera court, quand ses yeux seront flous, quand tu lui feras l'amour. Tu oublieras, tu m'oublieras. comme un film passé sur un écran noir. Car l'amour, mon amour, l'amour n'a pas de mémoire. Et m'oubliera, tu oublieras tout de moi, tout de nous. Quand ton souffle sera court, quand ses yeux seront flous, quand tu y feras l'amour, tu m'oublieras. Tu oublieras tout ça, tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou. L'amour.